vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio.
Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez tenu dans vos mains? Pas celui qu'on vous a imposé à l'école, non. Celui que vous avez choisi, ou peut-être celui qui vous a choisi, avec ses images pleines, ses lettres bien rangées ou un peu folles, et cette odeur. Ah, cette odeur de page, mélange d'encre et de promesses. Vous vous souvenez de cette sensation d'être avalé tout entier par une histoire? Comme si les pages avaient plus de poids que vos propres pieds sur terre. Claire Nadeau, elle a passé sa vie à inventer ces mondes-là, une cinquantaine d'albums, une cinquantaine de fenêtres ouvertes sur des univers qui parlent aux enfants et aux adultes qui n'ont pas oublié qu'ils l'ont été. Des collages, des traits, des couleurs et des mots qui dansent sur la page. Un premier livre qui sent bon la maison de Lala, un abécédaire qui fait chanter les lettres et toujours cette envie de raconter autrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, créer des livres pour les enfants, quand le temps des libraires s'accélère, que les histoires s'empilent comme des tours de cubes qu'on défait trop vite, et surtout, pourquoi fait-on encore des livres alors qu'un écran peut avaler 1000 histoires en un clic? Aujourd'hui, Claire Nadeau est avec nous pour parler d'images, de mots, d'enfance et de papier. Allez, ouvrons le livre. Claire, vos débuts dans l'illustration, c'est dans les années 70.
J'ai une fille qui est née en 70 et donc on se rappelle très bien que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à chercher à se faire publier. On avait un ami qui avait écrit beaucoup de textes qui s'appelait Jacques Delval. On était parti de ces petits textes et on avait fait plein de projets, plein de petits livres de toutes sortes d'ailleurs qu'on doit avoir encore quelque part dans des archives ici. Voilà. Et donc on a commencé à publier à Pomme d'Api, mais c'était dans les années 70 effectivement. Et je pense que le livre de Bernard Haller, ça doit être à peu près cette période-là.
Et alors la première fois que nous nous sommes rencontrés, ce que vous m'avez dit, c'était que finalement, à cette époque-là, le livre jeunesse était plutôt dénigré.
Oui, il y a encore un petit reste, des fois un peu péjoratif. Ah bon, c'est pour les enfants, donc... Ça veut dire que c'est peut-être pas très intéressant. Mais oui, à l'époque, ça commençait à être... Il y avait des mouvements et il y a eu, surtout à ce moment-là, les éditions de François-Ruy Vidal qui ont complètement transformé ce
regard, finalement.
Par exemple, on se rappelle très bien, on a acheté pour notre fille Max et les Maxi Monstres, qui est un incontournable de l'édition jeunesse. Eh bien, on l'a acheté à la librairie du Musée des Arts Décoratifs à Paris, parce qu'on le trouvait chez aucun libraire. Et la libraire du musée nous a dit « J'espère que c'est pas pour un enfant ». On lui a dit « Ne vous inquiétez pas, madame ». Et ça marque vraiment la publication de ce livre-là. D'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas l'École des loisirs qui publiait ça, c'était Delpire. Voilà, les éditions Delpire. Et c'était vraiment... ça transformait complètement ce milieu.
À l'époque, l'album jeunesse était donc plutôt dénigré. Il y avait donc aussi moins de production.
Oui, il y avait forcément moins de production. Même dans les années 70, c'était quand même pas énorme. Il y avait surtout peu d'éditeurs qui s'intéressaient à ce secteur-là. Il y avait Hachette avec ses bibliothèques roses, vertes et je ne sais pas quelle couleur. Et puis il y avait Rouge et Or aussi. On était très en couleur à l'époque. Mais il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs. En fait, c'est comme une... Ça a fait boule de neige parce que il y a eu des livres très intéressants qui ont été publiés par des petits éditeurs courageux. Et puis après, les autres ont suivi et ça a entraîné tout le monde. Même à cette époque-là, chez Gallimard, il n'y avait rien. Hein. C'est venu après et progressivement. Et puis ça a pris beaucoup d'essor. Et maintenant, on est dans une situation complètement inverse. Il y a trop de gens qui s'intéressent à ce domaine-là, trop d'éditeurs, trop de publications et il y a une espèce de crise qui est très préjudiciable à tout le monde.
Et alors, dans une époque où le livre jeunesse n'est pas du tout valorisé, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir illustratrice ?
C'est absolument pas original. En vérité, c'est beaucoup d'auteurs et illustrateurs ont commencé de la même manière. C'est quand on attend un enfant et qu'on se dit « Oh là là, je vais quand même pas lui acheter ça ou ça. » Et on se dit « On pourrait quand même faire des choses plus intéressantes. » Et c'est beaucoup la motivation de beaucoup d'illustrateurs, d'auteurs, même d'éditeurs. C'est ça qui motive beaucoup au départ.
Vous avez illustré une cinquantaine d'albums avec des styles très variés. Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui traverse peut-être toute votre œuvre ?
En fait, moi j'aime bien changer et puis je trouve que chaque livre c'est une aventure. Chaque livre doit trouver une image qui correspond exactement. Alors évidemment, quand on est à la fois l'auteur et l'illustrateur, c'est plus facile. Mais quand on n'est pas l'auteur, c'est aussi très intéressant de rentrer dans un autre univers et de chercher des choses un petit peu différentes. Et moi j'aime bien quand c'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur ou moins bien. Chacun fait comme il peut, c'est surtout ça.
Et alors vous, Claire, vous avez expérimenté le collage à une époque où c'était plutôt novateur, puisque ça ne se faisait pas du tout autant qu'aujourd'hui.
Oui, mais en fait, c'est quand même la digitalisation de tout ce secteur, l'imprimerie, la création et tout ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup plus de liberté. Mais les collages, c'est une technique que plein d'artistes ont utilisée avant moi et qui donne des rencontres inattendues. Enfin, c'est de l'invention, c'est rigolo, on est soi-même emporté dans un espèce de mouvement qui est plus intéressant.
Claire, est-ce que vous pouvez me parler de votre tout premier album que vous avez illustré qui a été publié ?
Ben oui, c'est Émile Issidou. Alors, on avait travaillé ensemble avec mon mari. Il y avait beaucoup de techniques. Il y avait des craies grasses, des projections de peinture, parce que pendant longtemps, j'ai travaillé avec des fonds projetés au pistolet, avec une technique de masquage et tout ça, et ce qui donnait des choses inattendues. Mais il y avait des éditeurs qui refusaient la nouveauté. Je me rappelle une fois chez Flammarion, ils m'avaient dit « Mais vous vous rendez compte, cette technique avec des petits points, puisque c'était projeté, ça faisait des petites gouttelettes, ça peut pas se reproduire, c'est très mauvais à l'impression. » Il y avait des tas d'a priori sur les manières de faire, sur les manières de procéder aussi. Par exemple, c'était les éditions La Farandole. Quand on envoyait un projet, fallait pas l'envoyer à plusieurs éditeurs en même temps, parce que fallait laisser à chacun le temps de répondre et de renvoyer son truc. Il y avait beaucoup de principes qui se perpétuaient et qui nous coupaient un peu les bras, quoi. C'était... Tandis que maintenant, comme il n'y a plus du tout ces conditions-là, on envoie à 50 éditeurs et évidemment, il n'y en a pas 50 qui répondent. En fait, on est passé d'un accès à l'autre un petit peu.
À la fois, vous avez débuté dans la littérature jeunesse puisque vous ne vous retrouviez pas forcément dans ce qui existait déjà. Et à la fois, j'imagine qu'il y avait déjà des artistes qui vous ont inspiré pour ce que vous alliez ensuite créer par la suite.
On était quand même toute une... Il y avait quand même beaucoup de gens qui commençaient à faire des choses intéressantes. Puis il y avait la presse jeunesse aussi. Il y avait Pomme d'Api, Bayard Presse. Et puis il y avait aussi, ça n'existe plus du tout, je crois, Jeunes Années Magazine, qui était... c'était deux mensuels pour les enfants, qui étaient assez modernes, assez... qu'essayait des choses. Et c'est vrai que dans la presse, c'est plus facile d'essayer, même Même les illustrateurs, on trouvait plus facilement du travail dans la presse parce qu'il fallait qu'ils se renouvellent d'un numéro à l'autre. Et puis, il y avait moins de risques. On avait une double page, on avait quatre pages. C'est pas la même chose que, par exemple, si on fait un album, c'est un investissement, c'est un risque financier. Il faut que ça se vende. Et donc, les éditeurs sélectionnaient les gens. Ils n'osaient pas toujours se lancer parce que c'est un vrai investissement financier. Et...
Vous nous avez dit avoir illustré pour la presse, pour des albums jeunesse, mais pas seulement.
Au début, quand j'ai commencé, il y avait aussi beaucoup de disques et de livres-disques. Et ça, c'était très intéressant. Il y a eu des belles expériences dans ce domaine-là. Et au début, j'ai travaillé beaucoup avec RCA, qui était un éditeur de 45 tours, qui avait un secteur jeunesse. Et j'ai fait, je ne sais pas, une dizaine album pour eux. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de pages, c'était vraiment en accompagnement de la musique. Il y avait les phonèmes qui avaient été illustrés, des choses comme ça. Voilà.
On l'a dit, vous avez expérimenté différents styles, plusieurs techniques, mais alors vous avez une formation dans ce domaine-là avant de vous lancer?
En fait, j'ai fait les arts appliqués et puis après, j'ai suivi les cours aux Beaux-Arts. Et voilà, c'est ça qui a été déterminant pour moi. J'ai quand même eu des hésitations parce que ce n'était pas évident de gagner. Parce qu'on est indépendant, on est très indépendant, mais en même temps, on est très dépendant aussi. Donc, on peut très bien projeter de partir en vacances et puis avoir juste un gros boulot qui tombe à son moment. Voilà, et on part avec le boulot sous le bras et on s'arrange pour le faire malgré des conditions qui ne sont pas optimales, quoi.
Qu'on soit un homme ou une femme dans ce métier-là, est-ce que vous vous sentiez des différences ou pas forcément ?
Non, pas forcément. Pas forcément, c'est très difficile pour tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme. Par exemple, je pense dans les rédactions de journaux comme à Pomme d'Api et tout ça, c'était très... C'est un secteur assez féminin quand même. Il y a beaucoup d'éditrices, énormément d'éditrices.
Et alors, grâce à ce métier, vous avez beaucoup voyagé, notamment grâce à des salons du livre.
Avec le livre de Lala, qui est le livre en plastique et en relief et en braille, mon éditeur était un tout petit éditeur. Ces livres-là coûtaient très cher et se vendaient mal en librairie parce qu'ils étaient trop chers par rapport au prix du marché. Et donc, ils ont décidé assez rapidement de travailler qu'avec des bibliothèques et qu'avec des collectivités. Et donc, on a monté deux expositions autour de ce livre, deux expositions qui étaient semblables, hein, c'est pour avoir deux exemplaires. Et en fait, mon éditeur les faisait tourner dans les bibliothèques. Donc du coup, j'ai accompagné ces expositions souvent dans les bibliothèques. Donc j'ai rencontré l'autre côté de la profession, les bibliothécaires, les enseignants et tout ça. Et donc j'ai été invitée dans des écoles maternelles, dans des bibliothèques. Et à cette époque-là aussi, il y a eu une espèce d'effervescence autour des salons du livre, parce que, bien sûr, surtout dans la ruralité, on ne trouve pas tous les livres. C'était des salons spécialisés jeunesse, et ça a permis aux livres jeunesse de se diffuser d'une manière... Et c'était des gens qui montaient ces salons, c'était des gens qui étaient très militants, qui étaient des enseignants passionnés, ou des parents d'élèves, ou un milieu associatif, et ils étaient vraiment investis, et en fait, ça a été... ça a créé une dynamique formidable, quoi. Et donc c'était très bien parce qu'on se rencontrait aussi entre auteurs et voilà, ça permettait une espèce d'émulation parce que se rencontrer entre auteurs, ça veut dire rencontrer aussi des gens qui ne font qu'écrire et d'autres qui ne font qu'illustrer, et ça permet des collaborations qui sont de notre propre chef et non pas de l'éditeur. Donc c'était très agréable, très intéressant, voilà.
L'ouvrage dont vous nous parlez, c'est « Qu'est-ce qui fait bon dans la maison de Lala ?» Et donc, il a une particularité, c'est finalement le tout premier que vous avez écrit et illustré.
Oui, exactement. Oui, parce que en fait, je n'osais pas trop me lancer dans l'écriture. Je ne me sentais pas légitime à ce niveau-là parce que j'avais fait des études d'art et pas du tout de littérature. Bien que j'étais une grande lectrice, j'étais moins à l'aise dans ce domaine-là. Et en fait, comme le braille est une écriture très particulière, il faut que les textes soient extrêmement concis. Il faut même faire la mise en page soi-même parce que c'est une écriture, le braille est une écriture qui prend énormément de place puisqu'elle se lit avec le doigt. Donc chaque lettre, c'est la première phalange du doigt et donc on ne peut pas serrer avoir une écriture serrée, on ne peut pas avoir d'italique. On a toujours cette largeur de doigt qui doit se répéter pour pouvoir se lire. Je voulais absolument que le texte soit le même pour les en braille qu'en noir, qu'il n'y ait pas des choses qui sautent. Je trouve que c'était pas juste qu'on ait une version abrégée pour les uns et pas pour les autres. Il fallait que ça soit exactement pareil. Donc là, j'étais vraiment obligée et c'était formidable. Parce que moi, je n'osais pas. Et du coup, là, j'ai osé. Et en plus, j'ai pris un plaisir fou à écrire ce petit livre qui est très court. Et je me suis promenée un peu partout avec ce livre. Voilà.
Vous avez pu également dire, c'est que vous n'avez jamais souffert du syndrome de la page blanche. En fait, tout au long de votre carrière, vous avez été inspirée sur ce que vous aviez envie de produire, de créer.
Le syndrome de la page blanche, je ne sais pas trop si ça existe, c'est surtout le syndrome de l'éditeur absent. C'est ça qui est très dur à supporter. Parce que là, par exemple, ces dernières années, avec le Covid, il y a eu des tas de rachats, de petites maisons qui se sont... des éditeurs qui ont arrêté leur activité parce que ça devenait trop compliqué. Ils ne pouvaient pas supporter des contraintes économique trop forte. Ils se sont rachetés entre eux. J'ai plusieurs éditeurs qui se sont rachetés entre eux. Donc j'ai travaillé avec un éditeur et finalement c'est un autre qui vend le livre. Et donc je me suis trouvée à la tête de tout un tas de petites recherches que j'avais fait, de petits projets de livres qui n'aboutissaient pas parce que le nombre d'éditeurs s'était réduit. En plus, quand les conditions sont plus difficiles, ils sont plus frileux aussi. Il y a beaucoup de propositions et voilà. Et donc c'est surtout ça qui est très très difficile parce que en fait, en plus avec le temps et tout, j'ai toujours envie de faire des choses, mais on se dit à quoi bon. Moi, je fais pas des tableaux, j'illustre des livres. C'est pas le même métier, c'est pas la même chose. Une illustration, c'est pas tout à fait un tableau, et un tableau, c'est pas du tout une illustration. Donc voilà, quand on est artiste, on peut faire des choses tout seul, mais quand on est illustrateur, on a besoin de ce support qui est le livre, qui est indispensable pour faire quelque chose. En fait, c'est les mots qui vous emmène dans un univers et qui vous donne envie de développer quelque chose d'intéressant.
Donc là, on a parlé un peu du début où finalement il n'y avait pas énormément d'éditeurs. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'il y a eu des moments plus compliqués où finalement, en tant qu'illustratrice, vous avez quand même toujours réussi à trouver votre chemin, à trouver des collaborations, des projets qui vous intéressent ?
Oui, il y a eu des périodes plus difficiles. En fait, il y a eu toute une période où j'ai fait beaucoup de documents. parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il y a des espèces de modes hein, quand même dans l'illustration. C'est, justement, il y a eu cet intérêt, cet engouement pour les documentaires. Et donc, j'ai fait beaucoup de documentaires. Et en même temps, ça m'a beaucoup intéressée aussi parce qu'on apprend plein de choses. On travaille avec une documentation énorme. Ça, c'est on a des piles de livres tout autour de soi pour travailler. Il faut être précis, juste. Et donc, ça m'a permis d'avoir du travail tout le temps parce que j'avais besoin de gagner ma vie aussi. Et donc, le documentaire a été une porte de sortie intéressante. Ça m'a permis d'apprendre, d'approfondir, etc. Et puis de m'implanter plus dans le milieu de l'édition.
Tout à l'heure, vous avez dit, on part des mots pour créer tout un univers. Et je me souviens de quelque chose que vous aviez dit la dernière fois, c'est que finalement, les mots qu'on utilisait avant dans les albums jeunesse ne sont plus ceux qu'on utilise aujourd'hui. Il y a quelque chose d'un peu frileux à utiliser des mots qui seraient trop compliqués, alors que pourtant, nous, on les assimilait bien à cette époque.
Oui, il y a des maisons d'édition qui sont très, très à cheval sur le vocabulaire et qui veulent que ça soit simplissime pour les enfants. Et ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Oui, j'avais raconté une anecdote d'un petit livre qu'on a publié. Beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs de la Charte des auteurs, on a publié des livres qu'on avait aimés tant petit, et on s'est aperçu que, en fait, ces livres, il y avait des tas de mots qu'on comprenait pas dedans, mais on arrivait quand même à suivre très bien l'histoire, et en fait, on se créait un vocabulaire qu'on n'aurait pas acquis autrement, et c'était très, très intéressant. C'est très curieux parce que, en fait, sur le plan graphique, on est très moderniste, on est au goût du jour, mais sur le plan du contenu et tout, on reste quand même très frileux dans ce milieu de l'édition. Il y avait des censures, hein, je me rappelle. Je me rappelle une fois, j'avais eu un texte de Jacques Linel, une histoire de Père Noël, et j'avais osé enlever la capuche du Père Noël, et il était chauve. Je me suis fait agonir parce que le Père Noël n'est pas chauve. De toute façon, il a toujours son capuchon sur la tête. Et pourtant, on n'en sait rien. Il y a des tabous. Ils ne sont pas toujours là où on pense qu'il y a des tabous.
Un autre ouvrage qui vous tenait à cœur, c'est Alphabeta, un abécédaire explorant une grande diversité de polices que vous avez créé avec Joël Sadler.
Joël Sadler, il était enseignant, il est du Mans. Et il écrivait des petits poèmes extrêmement joyeux et gais. On avait fait un petit album déjà ensemble qui s'appelait Croque-poème, qui traitait de la gourmandise. Et après, c'est moi qui lui ai proposé de faire un abécédaire. Je n'avais pas d'éditeur, j'étais gonflée. De lui proposer ça parce que je ne savais pas du tout comment ça allait évoluer. Et donc, il a écrit plein de petites comptines autour des lettres de l'alphabet. Et c'était un livre qui a eu un très gros succès. Un abécédaire, c'est quelque chose qui est utile, qui est prévu comme utile dans l'esprit des parents. Et si c'était drôle en plus, c'était très bien, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a un album jeunesse qui vous a peut-être particulièrement marqué durant votre enfance et qui vous a peut-être même accompagné encore ensuite durant votre carrière d'illustratrice ?
Ah oui, il y a des livres qui m'ont beaucoup marqué. Alors, on n'en a pas toujours conscience. Si on m'avait demandé ça au début de mon travail, de mon travail d'illustratrice, j'aurais pas su le dire. Et c'est rétrospectivement, en revoyant les choses et tout, qu'on se rend compte combien on a été marqué par certains ouvrages. Et en particulier, moi, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, il est là dans ma bibliothèque, un album des contes de Grimm qui avait été publié chez Hachette, dans les grands albums Hachette, qui était une très belle collection, très illustrée, et qui était illustrée par un certain Jean Morette. Et franchement, c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. C'est l'histoire du petit tailleur qui tue 7 mouches d'un coup et qui brode une ceinture en écrivant « tuer 7 d'un coup ». Alors évidemment, il apparaît comme un tueur terrible, bien qu'il n'ait pas du tout la carrure d'un tueur. C'est un modeste petit bonhomme qui brode et qui coud chez lui toute la journée et qui a des tas d'aventures. Et c'est un très, très joli livre. Et puis, il y a un livre aussi qui m'a beaucoup impressionnée, qui n'est pas là... J'aimais pas du tout les illustrations de ce livre-là, mais c'est l'histoire qui m'a énormément plu et qui s'appelait « Le voyage de Judy » et qui était publié aux éditions de Hatier. Et qui était un livre sur une petite fille qui vivait la grande dépression économique aux États-Unis et qui, en fait, il devenait comme des Romanichel. C'était une famille qui vivait dans une exploitation agricole, qui était renvoyée parce que l'économie ne marchait pas, et qui après allait de ville en ville, enfin de région en région, d'État en État aux États-Unis pour la cueillette des oranges en Californie, je me rappelle plus toutes les choses qu'ils rencontraient au long de leur pérégrination, et c'était très très intéressant. Et ça m'a beaucoup marqué ce livre-là et ce grand album illustré qui était vraiment très très beau.
Ces albums jeunesse construisent quelque chose chez l'enfant, de l'imaginaire qu'il va construire et faire évoluer tout au long de sa vie.
Ça s'imprime beaucoup parce que en fait c'est la première fois qu'on a un grand album illustré, donc on est très content. La première fois qu'on lit un roman qui raconte une véritable histoire, donc c'est des choses qui s'impriment, qu'on oublie et qui reviennent après, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a fondé notre réflexion, notre analyse des choses, notre perception du monde, je trouve.
Aujourd'hui, quand vous choisissez peut-être pour des enfants de votre famille un album, comment est-ce que vous le choisissez ? Vers quoi vous retournez ? Des classiques, des incontournables ? Ou est-ce que vous recherchez de nouvelles pépites qui peuvent arriver et qui finalement vont déclencher des choses que vous avez pu vous-même connaître plus jeune ?
C'est difficile, hein, en tout cas, c'est très agréable d'avoir à choisir un livre. Il y a des livres formidables, franchement. Là récemment, j'ai une petite nièce qui a 7 ans, hein, c'est ça qu'elle... 7 ans, et qui aime beaucoup les histoires de sorcières. Et j'ai exhumé de la bibliothèque « Graines de sorcières », qui est une histoire magnifique avec une sorcière qui s'appelle Lucie Fer, de son nom de famille, et qui rencontre le diable lui-même, Satan, qui est charmant, qui est séduisant. Et il est tellement séduisant qu'ils vont avoir un enfant ensemble. Et en fait, elle ne veut pas de cette petite graine de sorcière-là. Et le livre est magnifique et c'est des illustrateurs que j'aime beaucoup.
Alors justement, comme cet album se trouve juste à côté de nous, est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait ?
Si vous voulez. La sorcière Lucifer, d'une méchanceté légendaire, s'aperçut un jour qu'elle n'avait jamais connu l'amour. Elle se mit donc en quête d'un chéri. Mais qui sur terre pouvait aimer une si malfaisante sorcière ? C'est la question. Personne, pardi. Découragé, Lucifer décida de tenter sa chance en enfer et se retrouva en deux temps, trois mouvements, dans la foule des damnés qui défilaient devant Satan. C'est vraiment à croquer hein, comme histoire. Et il est vraiment super. Je l'ai raconté des dizaines de fois aux enfants quand, pour s'endormir le soir. Il est vraiment très, très bien. Et alors, j'aime beaucoup, c'est Lionel Le Néouanic qui a publié ça. Et ils ont fait beaucoup de livres. Il a fait beaucoup de livres qui sont très, très amusants. Enfin, je m'en achète encore toujours des livres. Voilà.
Vous avez fait don à la bibliothèque Albert Legendre à Laval d'une grande partie de votre travail que vous archiviez chez vous. C'est important pour vous aujourd'hui de transmettre ?
Ben, moi, je suis très heureuse d'avoir donné ça. Ce n'était pas si facile à faire au départ, mais maintenant, je sais qu'ils sont dans de bonnes mains. Et puis, en fait, finalement, beaucoup de choses se perdent. Donc, je suis heureuse de les avoir données et qu'elles soient quelque part. D'ailleurs, il y a quelques ouvrages que je n'ai pas donnés et que je leur donnerai a posteriori. Voilà, parce qu'il y a des livres qui peuvent encore peut-être avoir une deuxième vie, être réédités. Et donc, mais j'ai donné l'essentiel, quoi.
Et donc, une partie de votre travail est exposée actuellement à la bibliothèque Albert Legendre et est visible jusqu'en avril.
Après toutes ces années du coup, dans le monde de l'illustration, qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être au lecteur, à l'auditeur qui nous écoute, de l'importance que ça a dans votre vie et que vous aimeriez que ça ait encore dans les yeux des enfants aujourd'hui encore ces albums?
Moi, j'ai constaté que pour moi, certaines lectures avaient eu beaucoup d'importance et je pense que c'est toujours pareil parce que certaines lectures ont beaucoup d'importance ou des films ou des c'est pareil parce que c'est le support est différent mais c'est une histoire qui se déroule et je pense que ça aura aussi beaucoup d'importance pour les nouveaux arrivants et pour les enfants. Je trouve que ça construit et c'est très important. J'avais une amie qui des éditions de Milan qui me disait le livre pour enfants, il faut qu'on le... Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs façons de le lire. Il faut pouvoir le lire en images, pouvoir le lire en texte pouvoir le lire les deux en même temps. Et c'est ça qui fait la qualité du livre. Et malheureusement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de livres qui n'ont pas qui n'ont pas à la fois toute l'articulation autour du texte. Il y a des livres qui se lisent comme un dessin d'humour se lit. Tout de suite, il est tout de suite accessible et tout de suite lu et vidé. En fait, un livre important, c'est un livre qu'on a plaisir à relire, à revoir. Et les enfants manifestent très vite ce goût de la répétition et de l'entraînement dans... Je ne sais pas combien de fois on a lu Max et les Maxi-monstres à notre fille. Par contre, notre fils, lui, c'était un livre de Philippe Dumas qu'il aimait. C'était Le professeur de mathématiques, je me rappelle plus du titre. Un professeur de mathématiques très sévère. Et les enfants aiment, en plus, ils le racontent aux autres.
Et les histoires qu'on se raconte comme ça enfant, c'est à la fois intime, mais en même temps, ça se partage.
Oui, c'est... C'est le livre pour enfants, c'est très particulier parce que c'est vraiment un échange. Et même, je me souviens, il y a des bibliothécaires qui sont un petit peu, qui trouvent que certains livres n'ont pas beaucoup de qualité, etc. Mais en fait, si tous les enfants de la classe ont lu celui-là, il faut le lire aussi parce que sinon on n'est pas dans le groupe, on n'est pas dans la. Et je trouve que il faut pas être trop sélectif non plus dans les livres pour enfants. Il faut qu'il y ait beaucoup de sortes de livres. Il y a des formes que j'aime, des styles, que j'apprécie plus que d'autres. Mais en fait, les enfants, ils ont besoin d'avoir beaucoup de choses et ils ont besoin d'avoir un langage commun avec les autres. Et par exemple, si on prend... Je repense toujours à ma fille quand elle était petite. Oui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont un certain mépris pour ce genre de littérature. Mais en fait, par exemple, notre fille, elle avait appris à lire et elle arrivait à lire un oui-oui. Donc, c'était quand même un monument. Il y avait beaucoup de pages, etc. Et en fait, c'était aussi ce que lisaient ses copines. Et ça, c'était important. La graine de sorcière, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'enfants qui le lisent, et donc ça peut pas être dans les échanges avec les autres.
Ouais. En tout cas, merci Claire Nadeau de nous avoir accueillis chez vous.
C'est moi.
Et c'est le grand format dans la JT. C'est maintenant le moment de votre agenda culturel de la semaine et on le commence donc ce soir au 6x4 à Laval avec une soirée rock sous haute tension avec deux groupes qui promettent de faire vibrer les murs de la salle. Alors d'abord, The Wolf, un trio néerlandais survolté qui fusionne l'héritage de Jimi Hendrix, The Doors et Led Zeppelin avec une modernité brûlante. On peut le dire, ils sont nés pour la scène. Ces trois musiciens se sont forgés une réputation en acier trempé avec plus de 800 concerts à leur actif. Entre solos de guitare enflammés, orgue, Hammond hypnotique et rythmique surpuissante, attendez-vous à une déferlante de rock psychédélique taillée pour le live. Puis la soirée continue avec Tal Racha, un creature français tout droit sorti d'un road trip sonore aux accents blues, hard rock et progressif. Porté par des influences allant d'Allman Brothers Band à Greta Van Fleet, leur musique aussi entre puissance brute et envolée planante avec une touche vintage qui fait toute la différence. Riff acéré, énergie fiévreuse et distorsion bien sentie, tout est là pour une plongée dans l'âge d'or du rock version 2024. Et donc ça se passe ce soir au 6x4. On continue maintenant à Laval au Temple Mousse, mardi 11 février. Le duo musical La Cour vous invite à un voyage hors du temps. Alors ce sont deux voix, un piano, un harmonium et des percussions. C'est avec cet instrumentarium singulier que La Cour réinvente les frontières entre musique lyrique, chant traditionnel et mélodie populaire. Alors derrière ce projet, c'est Claire Groupalo, chanteuse lyrique, et Faustine Selman, pianiste et chanteuse, qui explorent ensemble un répertoire sans étiquette où chaque morceau est réarrangé avec finesse et audace. Tantôt épuré, tantôt vibrant d'intensité, leur univers oscille entre intimité et éclat lumineux porté par une complicité musicale rare. On continue maintenant et on le termine même cet agenda culturel avec le théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe et on écoute Élise, chargée de production et de programmation, nous parler de ce qui nous attend ce soir.
Là où vont nos pères, c'est un BD-concert. Florent Hermé s'est inspiré du chef-d'œuvre de Sean Tone pour créer, seul avec sa contrebasse, une expérience musicale douce et puissante. La BD, qui est sans texte, raconte l'histoire d'un père de famille qui quitte sa femme et sa fille pour traverser l'océan. Il se retrouve dans un pays inconnu où tout est à découvrir, à reconstruire. Il s'agit vraiment d'un moment suspendu qu'on vous propose le 6 et 7 février prochain au Palace Carnot.
Et voilà, l'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Claire Nadeau de nous avoir accueillis chez elle. Votre émission quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui, effectivement, mais ça continue sur nos ondes avec une soirée qui commence à 19h avec l'émission Dance Hall Social Club. J'ai envie de jeter quand même avec vous un coup d'œil sur ce qui nous attend ce week-end sur l'autre radio, puisqu'il y a des nouveautés. Et oui, samedi à 10h, c'est le tout premier épisode d'Histoire épique avec Benoît, qui aujourd'hui nous parle d'histoire. On part de très 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 loin et on va jusqu'à l'Homo Erectus. Ensuite, à 13h, ce sera Rock Dreams, qui fera un focus sur le groupe Morphine. Et le week-end se termine toujours le dimanche, et bien oui, et donc à 11h, on retrouve de nouveau Benoît et son équipe, mais cette fois avec l'émission Sport Épique. Voilà, moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, commencez à relâcher un peu la pression. Comme on défait un nœud trop serré, c'est une image pour vous parler de légèreté. Laissez l'avenir, elle vous attend. Et puis s'il vous plaît, faites tout ce que vous voulez, sans oublier par contre, s'il vous plaît, de faire le bien.
Bon bah c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.